Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour vous présenter ce journal de la radio des Nations Unies. Au menu, réunion ministérielle du Conseil de sécurité sur la situation israélo-palestinienne, Ben Ki-moon préoccupé par les tensions à l'approche du référendum au Congo, 30 000 personnes confrontées à la famine au Soudan du Sud, l'ONU critique la détention systématique des migrants et réfugiés par la République tchèque, en dossier nous reviendrons sur les flambées de choléra, enfin nous recevrons un délégué de la jeunesse belge. Sous la présidence du ministre espagnol des Affaires étrangères, le Conseil de sécurité a examiné jeudi la situation au Moyen-Orient. Cette réunion intervient alors que le secrétaire général Ban Ki-moon a achevé une visite de 3 jours dans la région pour tenter d'apaiser les tensions. Ce matin, les 15 ont d'abord entendu le vice-secrétaire général. Yann Eliasson a déploré que le conflit israélo-palestinien soit entré encore une fois dans une phase dangereuse. Il a indiqué que du 1er au 21 octobre, 47 Palestiniens et 7 Israéliens ont été tués, alors que plus de 5000 Palestiniens et quelques 70 Israéliens ont été blessés. D'où son appel.
La première priorité pour nous tous doit être la désescalade de la violence. Permettez-moi de souligner à nouveau, comme le secrétaire général l'a fait hier, que la violence est principalement enracinée dans l'absence d'une véritable perspective et d'un horizon politique. Chaque mois, nous avons transmis à ce Conseil le constat de la réalité sur le terrain qui est à l'origine de ce regain de violence. Des efforts doivent être intensifiés de toutes parts pour redonner espoir aux Palestiniens et aux Israéliens que la paix est encore possible. Nous devons parvenir de toute urgence à accomplir un réel progrès vers une solution négociée à 2 États. Pour ce faire, nous devons voir des changements importants de politique conformément aux accords antérieurs qui consisteront à renforcer les institutions, l'économie et la sécurité palestinienne. Cela aidera à créer les conditions nécessaires pour que les parties reprennent des négociations constructives. Nous avons besoin d'entendre les dirigeants palestiniens aborder sincèrement les préoccupations de sécurité légitimes des Israéliens et les voir prendre des mesures pour mettre fin aux incitations.
Le secrétaire général Ban Ki-moon a fait part de ses préoccupations au sujet des tensions entre les partis de l'opposition et le gouvernement de la République du Congo, tensions qui entourent un projet de réforme constitutionnelle qui doit être soumis au référendum dimanche 25 octobre. Le point avec Isabelle Dupuis.
Dans une déclaration rendue publique mercredi soir, Ban Ki-moon a affirmé que les informations concernant les dernières violences en République du Congo sont particulièrement inquiétantes. Selon la presse, la tension qui était déjà vive à l'approche du référendum est montée d'un cran après l'interdiction d'une manifestation dans la capitale contre le projet de réforme constitutionnelle. De violents heurts ont provoqué la mort de plusieurs personnes lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants. Le secrétaire général a encouragé toutes les parties concernées à choisir la voie du dialogue inclusif avant la tenue du référendum et à résoudre pacifiquement tout différend susceptible de voir le jour à l'approche de l'échéance du 25 octobre. Il a aussi appelé les autorités à garantir le droit de manifester pacifiquement. Si elle était adoptée, la réforme constitutionnelle permettrait notamment à Denis Sassou Nguesso, l'actuel président de la République du Congo, de briguer un 3e mandat en 2016.
3,9 millions de personnes sont désormais confrontées à une faim aiguë, dont quelques 30 000 au bord de la famine au Soudan du Sud. L'ONU sollicite un accès immédiat aux zones touchées par les conflits afin de conjurer une catastrophe dans le pays. L'UNICEF, le PAM et la FAO ont averti aujourd'hui que la faim extrême est en train de porter les populations au bord du gouffre dans certaines parties du pays. Georges Fominien est porte-parole du Programme alimentaire mondial. Il revient sur les causes de cette catastrophe.
Il y a des millions de personnes qui souffrent de la faim parce qu'ils sont incapables de satisfaire leurs besoins nutritionnels. Ces personnes-là sont déplacées pour la plupart ou ils sont dans des endroits où il y a de temps en temps des combats et donc ils ne peuvent pas cultiver. Et tout cela est couplé aussi au ralentissement économique actuel dans le pays. Nous constatons ici que les prix des denrées alimentaires sont beaucoup plus élevés. Et puis il y a aussi des irrégularités de la précipitation qui font en sorte que nous avons constaté dans certaines parties du pays que les rendements, ce qu'ils ont cultivé, a été un peu réduit parce qu'il y a eu des poches de faible pluviométrie. Donc, c'est une combinaison de tout cela qui fait en sorte que nous avons une situation qui voudrait une certaine réponse, qui voudrait que le monde entier soit au courant.
Depuis le mois d'août, la République tchèque détient systématiquement les migrants et réfugiés qui transitent par son territoire. Une politique vivement dénoncée par le commissariat aux droits de l'homme qui a appelé le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour respecter les droits des migrants et des réfugiés et qui s'inquiète par ailleurs du discours xénophobe tenu par les autorités. Cécile Pouillet, porte-parole du Bureau des droits de l'homme à Genève.
Ça commence par le fait que, pour la plupart, ils sont victimes de fouilles à nu par les autorités. Ils vivent dans des lieux de détention qui sont jugés indignes. Le ministre de la Justice tchèque lui-même nous a indiqué que ces conditions étaient pires que dans une prison. C'est notamment un problème de surpopulation, des conditions sanitaires difficiles, sachant qu'en plus, ces gens sont forcés par les autorités à payer leur propre détention. Les autorités dont pratiquent ces fouilles à nu, notamment pour confisquer l'argent des migrants et des réfugiés, et ils leur demande de payer 250 couronnes tchèques, c'est à peu près l'équivalent de 10 dollars par jour pour chaque personne. Cela est fait sans base juridique claire. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils quittent le lieu de détention, il ne leur reste plus rien.
En République démocratique du Congo, la Conférence nationale des paysans du Congo a recommandé au gouvernement mardi de revendiquer les droits de la RDC comme deuxième poumon vert mondial lors de la COP21, le sommet de Paris sur les changements climatiques prévu au mois de décembre. L'appel a été lancé par le président de cette organisation en marge des travaux sur le changement climatique et l'agriculture. Matesoulem Paluku a profité de cette occasion pour plaider notamment pour la mise en place des politiques et stratégies de lutte contre les changements climatiques en RDC.
Nous devons mettre en place des politiques ou des luttes contre les changements climatiques. Nous devons mettre aussi en place des cadres de concertation entre les différentes parties prenantes concernées par la problématique du changement climatique. Et nous devons aussi vulgariser les méthodes ou les pratiques ou les stratégies, les techniques nouvelles de lutte contre les changements climatiques. Des techniques qui vont pouvoir permettre soit aux producteurs agricoles de pouvoir atténuer les effets du changement climatique ou soit s'adapter aux effets du changement climatique. Par exemple, les technologies nouvelles qui ne détruisent pas l'environnement.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
L'Organisation mondiale de la santé est vivement préoccupée par les récentes flambées épidémiques de choléra dans certains pays du Moyen-Orient et de l'Afrique de l'Est et centrale. Plus de 10 700 cas, dont 170 décès, ont été recensés, principalement en Irak, en Tanzanie, en République démocratique du Congo. L'OMS avertit que le nombre de cas pourrait augmenter si des mesures de contrôle ne sont pas intensifiées. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a joint Dominique Legros, point focal pour le choléra à l'OMS.
En Irak, on en est à 1800 cas confirmés laboratoire et un décès. Mais le nombre de cas est plutôt sur le déclin. Donc on pense que la situation est sous contrôle. Le risque, c'est surtout l'extension vers les camps de réfugiés syriens et la zone du Moyen-Orient. En Tanzanie, on en est quasiment à 5000 cas. L'épidémie s'est déjà étendue vers Zanzibar, qui a déjà rapporté 140 cas. En RD Congo, on a une situation qui est à la fois dans l'Est, une situation endémique où tous les ans les cas sont rapportés, et une situation dans la province orientale et le Maniema, où on est déjà au total à pratiquement 4000 cas. Les cas sont sur le déclin, mais l'épidémie continue de s'étendre le long du fleuve Congo. Et là, on a maintenant des cas sur Kisangani, et notre crainte est que l'extension se poursuive vers Mbandaka, puis vers Kinshasa. C'est ce qui s'est passé en 2010-2011.
Et pour l'Irak, est-ce qu'il y a un quelconque rapport avec la crise des réfugiés syriens dans ce pays ou bien le problème des déplacés internes aussi dans ce pays?
La zone du nord de l'Irak rapporte régulièrement des épidémies de choléra. La zone de Souleymaniyah en particulier a eu plusieurs épidémies. Par contre, dans le sud, c'est beaucoup plus inhabituel. Donc on a eu cette année une épidémie qui a démarré sur Bagdad, y compris dans des camps déplacés. Ça a commencé au mois de septembre et très vite, ils ont mis en place des mesures de prise en charge des patients et puis des mesures sur l'accès à l'eau potable qui fait qu'aujourd'hui, la situation est en très nette amélioration en Irak. Donc il y a ces camps de réfugiés, comme vous le dites, déplacés, parce qu'il y a beaucoup de déplacés en Irak évidemment, mais aussi des réfugiés syriens dans la partie nord du pays. Là, on vient d'envoyer 500 000 doses de vaccins colériques pour essayer de protéger protéger les camps de déplacés et de réfugiés qui sont dans les conditions les plus difficiles au niveau sanitation et accès à l'eau, pour essayer d'éviter une propagation de l'épidémie vers les autres pays touchés par la crise syrienne au Moyen-Orient.
Et par rapport à d'autres réfugiés, on sait aussi qu'en Tanzanie, il y avait des problèmes de choléra dans les camps de réfugiés burundais. Est-ce toujours le cas et comment ça a été à l'origine de cette flambée en Tanzanie?
Il y a eu effectivement une épidémie de choléra dans le nord de la Tanzanie, dans la province de Kigoma, au mois de mai-juin, liée à l'arrivée des réfugiés burundais. Il y avait une épidémie au Burundi. L'épidémie a été contrôlée à partir de, je crois que les derniers cas ont été rapportés en juillet, alors que les cas de Dar es Salaam ont démarré au mois d'août. Donc le lien n'est pas évident.
Et l'OMS s'est aussi inquiété par rapport aux prévisions météo avec le phénomène El Niño. En quoi ça peut avoir des conséquences très graves par rapport à l'épidémie de choléra en Tanzanie?
Donc on nous annonce un phénomène El Niño très important cette année. La dernière fois qu'on a eu un phénomène aussi important en Afrique, c'était en 97-98. Et il y a eu des conséquences importantes dans les quatre pays les plus touchés, qui étaient le Tanzanie, Mozambique, Kenya et Ouganda. On a eu à l'époque 200 000 cas de choléra et 8 000 décès. Donc on est assez inquiet parce que si l'épidémie n'est pas contrôlée, l'arrivée des pluies va créer des inondations, des latrines qui vont déborder, un mélange entre les eaux de boisson et les eaux de toilette qui peut créer une situation assez explosive. On est en train de préparer les pays à ce genre de situation.
Autre pays, autre source d'inquiétude pour l'OMS, la République démocratique du Congo, on a l'impression que le choléra est toujours présent et c'est une forme de fatalisme ou bien l'insuffisance des infrastructures sanitaires.
Ça fait partie des pays qui rapportent en permanence ou presque des cas de choléra. On a des zones qu'on a bien identifiées, qui sont des zones qu'on appelle des zones super endémiques qui rapportent du choléra toute l'année. C'est surtout une question de volonté, parce qu'on sait de contrôler le choléra. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème d'engagement des partenaires, des gouvernements, pour, dans ces zones où on sait que tous les ans, le choléra va revenir, mettre en place des mesures de contrôle à long terme, c'est-à-dire essentiellement donner l'accès à l'eau potable.
Les Nations Unies ont convié récemment au siège de l'organisation à New York des dizaines de délégués de la jeunesse du monde entier. Ceux-ci ont pour tâche de représenter plus d'un milliard de jeunes confrontés à de nombreux défis, notamment les guerres et soubresauts, mais aussi les crises économiques et l'austérité budgétaire. Jérôme Le Chien était l'un des deux délégués belges à ces assises, des propos recueillis par Isabelle Dupuis.
Ça fait 10 ans que je suis impliqué dans divers combats pour les jeunes, d'abord pour les étudiants en médecine, puis après pour les étudiants en règle générale et maintenant pour l'ensemble des jeunes. Et c'est véritablement la fin de mon mandat en ce moment. Et j'avais envie de pouvoir impacter sur les politiques d'une façon plus internationale. Et je pense que l'ONU est un lieu tout à fait essentiel pour porter la voix des jeunes, pour sensibiliser les différents représentants des États membres, pour sensibiliser tout un ensemble de personnes qui ont leur mot à dire dans les politiques, et également pour, quand il le faut, tirer la sonnette d'alarme sur des situations que vive la jeunesse et que l'ensemble des diplomates ou l'ensemble des politiques ne vivent pas, parce qu'ils ne sont plus dans la situation de beaucoup de jeunes.
Et quelles sont justement ces situations qui vous semblent à l'heure actuelle les plus préoccupantes pour les jeunes?
Il y a une situation qui est préoccupante, c'est l'austérité. On nous matraque à coups d'austérité partout en Europe. De plus en plus de jeunes ont envie de travailler, ne trouvent pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Et quand il y a des emplois, certains ne sont pas des emplois de qualité, qui permettent véritablement aux jeunes de s'épanouir. Je dirais qu'il y a un élément clé que nous portons ici aujourd'hui. C'est important de bien comprendre que nous ne sommes pas seulement le futur, nous faisons partie intégrante du présent. Nous ne voulons plus être traités comme des chiffres, comme des objets auxquels on va faire des coupes budgétaires. Nous voulons être traités sur un plan humain et sur un plan émancipatif.
Vous allez éventuellement regagner votre pays. Quel message allez-vous apporter avec vous de cette expérience à l'ONU?
C'est un peu les mêmes problèmes partout, que ce soit sur l'accès à l'emploi des jeunes, sur la façon dont la société et les gens perçoivent la problématique des réfugiés, etc. Je veux revenir en Belgique avec un carnet d'adresses, avec des contacts, avec des connaissances qui nous permettent en tant que Belges de faire deux choses. Nous améliorer dans la gestion de nos dossiers, dans, entre guillemets, la capacité de faire un lobbying très important avec des positions concrètes. Et la deuxième chose, c'est qu'à l'ONU, on a décidé tout un ensemble d'objectifs pour 2030. Il faut revenir avec ces objectifs et avec différentes structures inhérentes à ceux-ci qu'on ne pouvait pas découvrir en tant que jeune en Belgique. Et donc, je veux qu'on puisse mettre en place ces objectifs 2030. Je veux revenir avec une expérience liée au fait que j'ai côtoyé tout un ensemble de jeunes autres délégués qui m'ont apporté des choses pour, au final, améliorer le fonctionnement et la démocratie de la jeunesse en Belgique.
Dernière question, votre mandat arrive bientôt à terme. Quelle sera votre prochaine étape professionnelle ?
Alors ma prochaine étape, c'est de faire ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire la médecine. Je pense qu'en tant que médecin, je pourrais apporter beaucoup de choses d'une façon inconditionnelle aux gens.
Et c'est avec Jérôme Lechien que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.